Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hello, c'est Laetitia.
Salut, c'est Lucille.
Sur les réseaux sociaux, vous nous demandez souvent où est-ce qu'on va chercher les sujets pour nos épisodes. Eh bien aujourd'hui, je vais vous révéler un petit secret. Généralement, ça part de discussions avec nos amis. Et c'est le cas pour l'épisode d'aujourd'hui. L'autre soir, avec mes potes, on reparlait d'expériences passées, et on est plusieurs à s'être fait la réflexion suivante. À l'époque, je n'avais pas réalisé à quel point cette personne s'était mal comportée. Je sais pas pour vous, mais cette réflexion, je me la suis beaucoup faite en repensant à mes ex-partenaires ou même à mes anciens crushs. Lucille, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de repenser à tes ex et de te dire « mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ça ?»
Oui, quand je pense à mes ex, je me dis ça, exactement. Oui, évidemment, je pense que j'ai commencé à être un petit peu plus déconstruite à partir de peut-être 25 ans. Et du coup, avant, j'ai eu le temps, des années même, pour faire plein de bêtises. Je peux pas dire que je regrette les choses, que j'ai l'impression d'avoir été victimisée contre moi. Mais clairement, il y a des tonnes de choses que je referais absolument pas de la même manière aujourd'hui.
Ouais, je comprends tout à fait. Moi, il y a des choses que je regrette. Il y a des comportements où je me dis vraiment j'étais en manque d'amour, en manque d'affection, en manque d'estime de moi pour avoir accepté ce genre de choses. Et d'autres où je me dis bah finalement peut-être que c'est pas plus mal que je les ai vécues parce que j'en ai appris des choses. Du coup c'est des attitudes que je vais pas reproduire dans mes futures relations, aussi bien pour mon bien-être personnel que celui de mes partenaires actuels et peut-être futurs. Si ma meuf entend ça, elle va me flinguer, mais... mais voilà. Et ouais, effectivement c'est tout un processus. Je pense qu'à l'époque je réalisais pas forcément que les gens avaient des mauvais comportements avec moi. Je le réalise aujourd'hui après 10, 15, voire 20 ans d'expérience, on va dire, dans le domaine. Et je pense que c'est notamment dû à ce que tu disais, à la déconstruction. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consiste, en fait, la déconstruction, pour ceux qui ne le sauraient pas ?
Ben c'est un petit check de qui on est, de ce en quoi on croit. C'est de se poser et de se demander d'où viennent les choses qui potentiellement qu'on aime, qu'on n'aime pas. Essayer de comprendre ce qui vient de ce qu'on nous a appris, de ce qu'on nous a mis dans le crâne et ce qui vient vraiment de nous et de notre personnalité. Donc ça peut être long comme processus, ça peut être douloureux aussi de se rendre compte que pendant des années on a fait des choses uniquement parce qu'on nous avait appris à les faire et qu'on les avait mis dans notre crâne jusqu'au bout pour les faire. Je pense tendances en particulier, certaines pratiques. On l'a déjà un peu évoqué dans des épisodes précédents, mais moi, je sais que pour mes années de collège, on nous répétait beaucoup qu'il fallait sucer, bien sucer, être un bon coup. C'est important de pas être une étoile de mer. C'est des choses qu'on a entendues très jeunes et qui fatalement rentrent dans notre façon de faire les choses, qui deviennent presque part de notre personnalité. Et la déconstruction, c'est le moment où on commence à justement remettre en cause tout ça et se rendre compte, bah, du coup, de ce qu'on aime vraiment ou pas et de qui on est vraiment ou pas. Donc, encore une fois, c'est quand on décide de remettre en cause tout ça, ça peut prendre des années, ça peut prendre presque 10 ans, même plus parfois, parce que c'est souvent pas très confortable.
C'est pas très confortable et ça demande une certaine implication aussi, parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées par la thérapie, notamment sur tout ce qui était estime de moi-même. Et le fait d'accepter de me dire « je ne méritais pas de subir ce genre de choses », beaucoup de travail sur ma façon de penser aussi, donc lire des livres, parler avec des gens, accepter aussi de se remettre en question. Parce que moi, je pense que même parmi mes attitudes à moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pu avoir des comportements avec les autres qui aujourd'hui me scandalisent. Voilà, je sais que, par exemple, il y avait un grand jeu quand j'étais au collège, c'était de s'amuser à mettre des mains aux fesses des autres gens. Et à l'époque, moi, je voyais pas de mal dans tout ça, sauf qu'en fait, maintenant, je sais que c'est une forme d'agression sexuelle. Et du coup, c'est pas des choses que je ferais aujourd'hui, même avec des potes, même avec des gens que je connais bien, et même avec ma meuf. Si je pense qu'elle est pas dans un mood à ça, je vais pas aller lui mettre une main aux fesses, alors qu'il y a plein de gens qui trouvent ça totalement normal. Voilà, c'est un des exemples du processus de déconstruction où moi, je me suis remise en question. Il y en a probablement plein d'autres, hein, je vais pas vous refaire tout mon passif en termes de comportement, mais voilà, c'est important en fait dans ce processus de se dire moi aussi, je me suis mal comportée et qu'est-ce que je peux faire pour que ce genre de comportement ne se renouvelle pas en fait.
Je précise aussi que c'est pas quelque chose où on se lève un matin et on se dit alors aujourd'hui je vais consacrer 1 heure à ma déconstruction. Ça marche pas comme ça. C'est souvent des choses qui se font un peu en sous-marin. C'est une réflexion qui se construit avec le temps. Donc tu disais à base de conversations avec des proches, avec à force d'écouter, alors souvent des féministes évidemment, qui nous permettent d'avancer là-dessus, lire des livres, se renseigner sur le sujet, évidemment faire une thérapie, ça joue beaucoup. Mais c'est pas quelque chose de foncièrement actif à proprement parler. Souvent, en général, on se dit j'ai commencé ma déconstruction plus ou moins vers tel âge. On s'est pas réveillé un matin en se disant voilà, maintenant, ça y est, je vais me déconstruire. Et encore moins, ça y est, je suis une personne déconstruite, puisque c'est un working progress. C'est quelque chose qui, potentiellement, une fois qu'on a commencé, s'arrêtera un peu jamais.
Et qui va beaucoup évoluer aussi en fonction de la société, parce que y a des nouvelles lois qui sont passées, il y a des nouvelles choses qui ont évolué, les mœurs évoluent. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Non mais moi, je suis totalement déconstruit », c'est faux. Voilà, concrètement.
Surtout si on est un homme qui dit ce genre de choses, c'est encore plus faux potentiellement.
Voilà, il n'y a pas de diplôme, vous n'aurez pas votre petite médaille parce que vous avez appris des bons comportements. La déconstruction, c'est un peu un processus qui est fluide et qui est sans fin, je pense, en tout cas.
Il y a un autre phénomène dont on commence à parler un petit peu plus, mais qui reste encore très peu connu. Alors, trigger warning, on va parler de viol et d'agression sexuelle pendant quelques minutes. N'hésitez pas à zapper si ça peut vous faire du mal. Laetitia, pourquoi est-ce que parfois des victimes de violences sexuelles mettent des jours, des mois, voire des années avant de réaliser ce dont elles ont été victimes ?
Alors ça, c'est un débat qu'il y a beaucoup en ce moment, et c'est un reproche qui est beaucoup fait aux personnes victimes de violences sexuelles. C'est pourquoi est-ce que vous avez attendu tout ce temps pour parler ? Pourquoi est-ce que vous avez attendu tout ce temps pour porter plainte ? Généralement, c'est assorti de petits commentaires en mode « c'est bon, maintenant, faut passer à autre chose ». Si vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant, c'est parce que ça ne vous a pas tant traumatisé. Eh bien, c'est faux. En fait, si les personnes victimes de violences n'en parlent pas tout de suite, c'est à cause d'un phénomène qui s'appelle la sidération traumatique. Concrètement, c'est une forme de mécanisme du cerveau et du corps qui vise à nous protéger quand on vit un événement qui est choquant ou qui est traumatique. Dans le cadre des viols, par exemple, il y a une étude suédoise qui a été faite en 2017 et qui affirmait que 70% des victimes de viols s'étaient senties paralysées pendant l'acte. C'est en gros un mécanisme qui nous empêche de réagir sur le coup et de nous défendre. C'est un mécanisme de survie. Parce qu'il y a une petite chose dans notre cerveau qui nous dit « si jamais tu te défends, non seulement tu risques de te faire violer encore plus fort, mais tu risques de mourir. » Donc voilà, c'est un mécanisme qui a été beaucoup étudié, qui n'est pas encore très connu du grand public parce qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas. On commence à trouver un peu les termes dans les médias mainstream, mais ça reste encore quelque chose de très rare. Parce que ça implique de se pencher vraiment sur la question des violences sexuelles et que y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire l'effort. Donc, la sidération traumatique, c'est quelque chose qui fonctionne sur le coup, mais qui peut aussi se prolonger dans le temps. On peut alors parler d'amnésie traumatique. Et là, concrètement, ça veut dire que notre cerveau va bloquer les souvenirs traumatiques pour nous protéger et ne pas nous faire tomber dans un état de stress qui pourrait nous mettre dans une forme de détresse. Les souvenirs, ils peuvent être ravivés par tout et n'importe quoi. Ça peut être un geste, un mot, un endroit ou juste avec le temps qui passe. C'est aussi pour ça que nous, dans ce podcast, quand on va parler de choses un petit peu sensibles, on essaye de vous mettre des trigger warnings parce que le fait d'entendre raconter ce genre d'histoire, ça peut déclencher des souvenirs traumatiques. Et c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, en fait. Parfois, ça peut revenir au bout de quelques jours, de quelques mois, de quelques années. Ça peut ne pas revenir du tout. Ça peut revenir de façon en mode « Ah oui, effectivement, c'était peut-être ça ». Sans que ce soit traumatique pour certaines personnes, mais voilà, il n'y a pas de mode d'emploi sur ça, il n'y a pas de modèle qui correspond à tout le monde, ça dépend vraiment du profil de chacun, du type d'agression, du type de violences qui ont été faites. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui se souviennent des violences sexuelles dont elles ont été victimes plus tard. Ça peut être des années plus tard, on a eu des cas où ça pouvait être jusqu'à 40, 50 ans plus tard, notamment pour les victimes d'inceste. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui portent plainte beaucoup plus tard ou qui ne portent pas plainte du tout parce que malheureusement, plus le temps passe, plus c'est difficile d'obtenir gain de cause parce qu'il n'y a plus de preuves physiques, que les souvenirs peuvent être plus flous ou tout simplement parce qu'on ne veut pas nous écouter quand on raconte ces choses des années plus tard.
Moi, je sais que ça m'est arrivé que j'ai réalisé un viol 10 ans après que ça se soit passé et je l'ai réalisé en l'écrivant. C'est-à-dire que j'étais capable de raconter cette expérience comme une expérience un peu naze, qui était de mon fait, par exemple, que je m'étais foutue toute seule dans une galère. Je pouvais faire des blagues dessus. Et puis, en fait, en écrivant cette expérience, je me suis rendu compte, du coup, grâce à cette déconstruction, mais aussi grâce à mes lectures féministes, que, en fait, c'était pile la définition d'une agression sexuelle et d'un viol. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à voir sur soi. Souvent, c'est aussi plus facile de le voir sur les autres. Quand les autres racontent leur expérience, on leur dit, mais là, ça, ce que t'as vécu, c'est peut-être beaucoup plus grave que ce que tu crois. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, de garder ça à l'intérieur de soi. Et puis, je pense que la culpabilité, ça joue aussi. Se dire que c'est de notre faute, que c'est nous qui avons donné ce rendez-vous, que c'est nous qui avons choisi cette personne, ça joue sur le fait qu'on garde à l'intérieur de nous ça pendant très, très longtemps. Il y a vraiment une importance comme ça de la déconstruction. Est-ce que ça fait du bien, après, de se rendre compte qu'on a été violé alors qu'on ne mettait pas ce mot-là dessus? Un peu comme la déconstruction, ça ne fait pas du bien, mais ça permet d'éviter parfois des espèces de symptômes psychosomatiques. On peut se retrouver à avoir des problèmes qui vont être des problèmes de santé ou des problèmes de santé mentale. On ne comprend pas du tout d'où ça vient. Et en fait, ça va venir de là, de ce nœud-là qui va se placer des années auparavant. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important parfois d'aller démêler un peu son passé, de faire une thérapie, encore une fois, pour s'éviter après des soucis potentiellement peut-être plus graves pour l'avenir.
C'est pour ça que c'est important de déconstruire aussi la notion de culpabilité, parce qu'en fait, on a beaucoup été éduqués, en tout cas sur les personnes de notre génération à nous, sur le fait que quand une femme était victime d'une agression sexuelle, c'était sa faute. Mmh. Elle l'avait cherchée, elle était habillée de telle ou telle façon. On a grandi avec ce genre de discours, c'est des choses qui sont en train de changer aujourd'hui. Et du coup, il faut qu'on apprenne, nous, de notre côté, à déconstruire cette culpabilité qu'on peut avoir, à se dire que c'était de notre faute, en fait. Est-ce qu'on l'a pas un petit peu cherché? C'est horrible de se dire ce genre de choses, mais moi, je sais que j'ai vécu, pareil, une expérience traumatique, un viol, et j'ai mis des années à m'en rendre compte. Hein. Je m'en suis rendu compte probablement plus de 10 ans après les faits aussi. Et pour le coup, c'est une amie à moi qui m'a fait réaliser. Je lui racontais cette histoire, cette anecdote un peu de la loose, un peu pareil. Et c'est elle qui m'a dit « Mais t'étais d'accord ?» Et je lui dis « Franchement, je ne me souviens pas, j'étais trop ivre pour me rappeler. » Et c'est là que dans ma tête, j'ai eu un switch et de me dire, mais en fait, non, du coup, si j'étais ivre et que je me rappelle avoir dit non au début et qu'après, j'ai peut-être dit un oui sous l'insistance et sous l'effet de l'alcool, c'était pas un vrai oui. Donc c'est important de faire attention quand vos proches vous racontent ce genre d'histoire, de vous questionner un peu dessus, de les questionner éventuellement aussi, mais avec beaucoup de délicatesse, parce que ça fait jamais du bien, en fait, de se rendre compte, même des années plus tard, qu'on a été victime de violences. Et du coup, c'est des choses à amener avec beaucoup de sensibilité. Moi, je sais que l'amie qui m'a permis de prendre conscience de tout ça, elle m'a beaucoup accompagnée. Elle a vraiment fait en sorte de m'en parler dans un contexte où j'étais à l'aise, où je me sentais pas en danger, sans me forcer. Et voilà, c'est une bienveillance qui est essentielle, en fait, quand on parle de ce genre de personnes. Allez pas dire à votre pote qui vous raconte une anecdote ou une histoire « Ah, mais c'est un viol !» Parce que c'est un truc qui est hyper violent à se prendre dans la figure et que justement, c'est le genre de chose qui peut déclencher des souvenirs traumatiques.
Bien sûr. Et puis, tu vois, tu parlais aussi de la fin de la culpabilité et du fait qu'il fallait qu'on travaille là-dessus. Mais c'est extrêmement difficile, même si on connaît la théorie de « il faut pas se sentir coupable d'avoir été victime ». Quand on voit aujourd'hui les réactions qu'il y a avec tous les MeToo qu'il y a eu successifs, on a encore extrêmement de mal à entendre collectivement la parole des victimes et à pas se dire que c'est de leur faute. Je pense en particulier aux victimes de PPDA ou aux victimes de photographes, par exemple, puisque c'est quelque chose qui a été très discuté ces derniers temps, et où il y a toujours quelqu'un qui vient dire « mais en fait, elles sont venues voir ces personnes, elles sont venues, donc elles ont consenti d'une certaine manière ». Même si on est déconstruite, même si on sait que c'est pas une bonne chose et qu'on ne doit pas se sentir coupable quand on a vécu une agression sexuelle ou un viol, relire ça sans arrêt nous rappelle sans arrêt à cette culpabilité-là. Et donc, c'est pas si simple que ça, malgré tout, entre la théorie et la pratique.
Voilà, c'est des choses qui sont très compliquées. C'est pour ça aussi qu'on essaye d'en parler beaucoup. Moi, si je peux vous donner un conseil, c'est de parler de cette culpabilité, en fait. Je sais que pour les cas de gros procès qu'il y a eu ces derniers temps, il y a des groupes d'écoute qui ont été faits entre les victimes, que les gens se parlent de plus en plus entre eux quand ils veulent pas nécessairement parler publiquement. C'est des prises de parole, en fait, qui font du bien. Même si on va pas aller jusqu'à porter plainte parfois, le simple fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup.
Et ça nécessite quand même un courage énorme. Donc, si vous ne vous sentez pas le courage de le faire, encore une fois, il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se faire violence sur une violence. Mais c'est vrai que si vous avez le courage de parler, potentiellement, ça fera du bien à quelqu'un.
Voilà, ne vous forcez jamais à aller porter plainte. Je sais que c'est un discours que j'ai déjà tenu qui m'a valu beaucoup de problèmes. Où on m'avait dit « mais tu te rends pas compte, tu incites les gens à taire ce genre de truc. Si ça se trouve, c'est parce qu'elles ne sont pas allées porter plainte que telle personne va continuer à agresser. » En fait, non. Si la personne va continuer à agresser, c'est sa faute à elle. Porter plainte, c'est un processus qui est déjà très compliqué parce qu'on sait que la police n'écoute pas forcément les gens. Il y avait des études qui étaient sorties sur le sujet où je crois que c'était plus de 36%, on vérifiera le chiffre pour vous le mettre en légende, mais plus de 36% des femmes ne se sentaient pas écoutées par la police quand elles dénonçaient des violences sexistes et sexuelles. Ça veut dire potentiellement être confronté à son agresseur lors d'une confrontation organisée par la police. Ça veut dire raconter à la police, à des experts, à des avocats, à des juges, à des témoins, ce qu'on a vécu, donc le revivre constamment. C'est des processus qui sont hyper compliqués, qui sont hyper intenses. Donc si vous ne pensez pas en être capable sans que ça vous détruise, ne le faites pas. Ne vous sentez jamais obligé d'aller porter plainte. Parce que ça peut faire beaucoup de mal.
Mais on voit même au niveau du résultat, puisque du coup, le nombre de personnes qui portent plainte est déjà minime par rapport aux vraies agressions qu'il y a dans la vie. Et le nombre de personnes qui obtiennent gain de cause et reconnaissance de ce qu'elles ont vécu est encore plus minime. C'est extrêmement difficile de se motiver à aller porter plainte quand on se rend compte que d'autres personnes avec des dossiers peut-être plus importants que soi ne sont pas reconnues en tant que victimes pour ensuite entendre en plus que du coup, s'il n'y a pas eu de reconnaissance légale de ce problème, les personnes sont innocentées, ce qui n'est pas du tout le cas dans la réalité des faits, mais on le voit très régulièrement dans l'actualité. Et c'est vrai qu'encore une fois, dans cette travail de déconstruction, voir dans l'actualité tout le temps des contre-exemples de ce en quoi on croit, ça rend les process très difficiles.
On a beaucoup parlé de violences sexuelles. Heureusement, dans les comportements qu'on n'a plus envie d'accepter aujourd'hui, il n'y a pas que ça, parce que ce serait quand même très très lourd. Donc on va fermer la parenthèse trigger warning et repasser sur des choses qui sont... peut-être, sans vouloir dire plus légères, qui sont en tout cas moins lourdes en termes de thématiques. Lucille, tu as reçu beaucoup de témoignages sur Instagram quand on a demandé aux gens ce qu'ils regrettaient d'avoir accepté. Est-ce que tu peux nous en lire quelques-uns ?
Alors moi, je les ai compilés, les témoignages, puisque j'en ai reçu plein, très courts, mais où tout le monde, de mon côté, en tout cas sur mon compte Instagram, est plutôt d'accord. C'est la principale chose que les gens veulent, et que les femmes veulent refuser ou refusent maintenant, c'est l'épilation de la chatte. Obligatoire. Eh bien oui, parce que du coup, pendant hyper longtemps, mais pareil, encore une fois, moi, ça fait partie de mon éducation à la sexualité, c'est-à-dire que on a grandi avec le porno, mais comme beaucoup de générations, probablement avant et après nous. Et Et l'épilation intégrale faisait partie de la petite boîte à outils de la sexualité. On nous a beaucoup dit aussi que les hommes trouvaient ça sexy. Alors, si les hommes trouvent ça sexy, on y va. Et donc, ouais, ça a mis assez longtemps avant, à titre personnel, que je remette en cause cette histoire de dépilation, alors que c'est quand même quelque chose de coûteux, de douloureux. Et à titre personnel, je me sens pas plus sexy quand je suis épilée ou pas. Je me sens juste moi, normal. Et donc, c'est revenu beaucoup dans les témoignages, cette remise en cause de l'épilation intégrale ou très échancrée. Donc, c'est, je pense, pas forcément une mauvaise chose. Je pense que le principe de l'épilation, c'est qu'on fait ce dont on a envie et ce qu'on aime. Si vous êtes une femme qui a envie de se faire épiler intégralement parce que vous vous trouvez super sexy avec ça, parce que vous aimez ça, eh bien, tant mieux. Mais c'est vrai que le fait de vouloir le généraliser à toute une population, bah, c'est un peu toxique.
Je suis assez d'accord que le sujet de l'épilation... Alors là où ça me... Où moi, ça... les souvenirs m'étonnent un petit peu, c'est que moi, j'ai commencé ma vie sexuelle sans m'épiler. Parce que, en fait, j'avais jamais regardé de porno avant de commencer ma vie sexuelle. Et que mon premier rapport a été avec une femme et qu'elle avait des poils, j'avais des poils. J'en disais, bah, super, tout le monde a des poils, il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne. Et c'est seulement quand je suis passée au-delà du cap de mes premiers petits copains et de mes premières petites copines que j'ai eu une réflexion de la part d'un mec qui m'a dit c'est fou, c'était la première meuf avec qui je couche qui ne soit pas du tout épilée. Et moi, j'étais là, épilée, je me suis rasé les jambes, ça va, tu vois. Et il a fallu le temps que ça monte au cerveau et que je comprenne qu'il parlait de ma chatte. Et en fait, je pense que là, ça m'a créé un complexe. Mmh. Et à partir de là, pendant une bonne douzaine d'années, je pense, je me suis consciencieusement rasé le moindre centimètre carré du corps avant un date parce que j'étais terrifiée à l'idée d'avoir une autre réflexion du même style. Et puis, depuis quelques années, je suis arrivée à un stade où j'étais pas encore totalement déconstruite là-dessus, dans le sens où, quand j'avais des rencarts avec des personnes, quelle que soit leur orientation, je leur demandais avant. J'étais plutôt épilation, pas épilation, que je sache. Donc, j'ai des gens qui m'ont répondu, moi, j'en ai rien à foutre, donc dans ces cas-là, j'en ai rien à foutre non plus. Quand j'ai des gens qui me disent, moi, je suis team épilation intégrale, je suis là en mode, fais chier. Mais je le ferai parce que je suis une meuf vraiment sympa. Puis là, depuis que je suis avec ma meuf, en fait, on en a rien à foutre, ni l'une ni l'autre, et c'est une libération absolue, en fait. De se débarrasser de ça. Mais je pense que typiquement, c'est un sujet sur lequel je suis pas encore totalement déconstruite. Parce que je pense que si j'avais un ou une partenaire qui ne supportait pas les poils, bah, je continuerais à me raser ou à m'épiler, même si c'est pas quelque chose que je ferais pour moi.
Moi, je sais que ça a été caché sous un vernis de fun aussi. Quand j'étais plus jeune, ils sortaient des kits de crème dépilatoire pour faire des formes. Et du coup, c'est pareil, on nous vendait le truc un peu genre si t'es une fille un peu fun, tu fais des trucs en forme de cœur, en forme d'étoile. C'est impossible, en vrai, c'est une galère.
C'est une galère. Alors moi, j'ai fait le stade au-dessus. C'est que je me suis décoloré les poils de la chatte pour les teindre.
Oh.
Et les assortir à ma couleur de cheveux.
C'est incroyable, c'est quelle couleur ?
Rose, évidemment. Et alors ça, pour le coup, j'ai des partenaires qui ont adoré. Vraiment, ça les a rendus dingues, je sais pas, il y avait un côté novateur. Ils étaient là en mode, mais c'est génial, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec les poils. Je sais, bah ouais, dès qu'on arrête de les enlever, en fait...
Moi, j'aurais un peu peur d'utiliser de la décoloration sur une zone aussi, aussi sensible. Est-ce que tu as un petit conseil pour les personnes qui voudraient tenter ?
Ne le faites pas. Ne le faites pas. Personnellement, ça fait partie des choses que je ne ferai plus.
D'accord.
Ou en tout cas, avec peut-être plus de prudence, ne descendez surtout pas, par exemple, au niveau des lèvres, au niveau de la vulve, parce que alors, non seulement vous allez vous brûler, mais en plus, vous allez vous ravager la flore. C'est vraiment quelque chose... ne le faites pas. Parce qu'au final, même quand on rince, il y a toujours un risque que ça aille vers la vulve, donc c'est pas bon. Mais ouais, c'était fun, c'était sympa à faire une fois ou deux, mais ne le faites pas.
Moi,
globalement,
je sais que...
les produits sont pas adaptés.
Ma déconstruction a fait que j'ai beaucoup moins pensé à cette zone-là après quoi. C'était vraiment une vraie source de problème, mais c'est un problème qu'on a aussi avec est-ce que je sens mauvais, est-ce que mes sécrétions sont normales. On nous a vraiment appris bourrer le mou avec ces trucs de nos chattes ne sont pas normales quoi.
Ouais.
Et donc on essaye de les rendre les plus attrayantes possibles. Il y a une époque où c'était la mode d'avoir des petits joyaux, de faire vraiment c'était un vrai truc quoi. Donc moi je sais que au naturel, je culpabilise pas, mais j'ai encore un peu une petite pensée de peut-être un peu là je suis peut-être trop naturelle. Et là je me rends compte que c'est juste moi et mon bien-être perso. Je pense que j'écouterai plus jamais personne qui me demanderait de faire quoi que ce soit. Et peut-être qu'un jour pour me marrer, je referai une forme de cœur, d'étoile ou de je sais pas quoi. ou de Sin Peace, mais en vrai, ouais, ça a été une déconstruction qui est salutaire parce que du coup, encore une fois, elle permet d'éviter de souffrir, elle permet d'éviter de perdre de l'argent et elle permet d'éviter des complexes, ce qui est pas plus mal. J'ai reçu d'autres commentaires sur le fait d'estimer que le rapport sexuel se finissait avec l'éjaculation. Je suis d'accord avec ça. Moi, c'est vraiment pareil dans mon image du rapport sexuel pendant très longtemps avec un homme, évidemment. Le rapport sexuel commençait par une fellation, se finissait par une éjaculation. Et ça, bah, c'est pareil. On déconstruit finalement. Et puis, ça fait du bien parce que du coup, on a une sexualité beaucoup plus riche.
Moi, ça a beaucoup changé quand j'ai commencé à avoir des rapports plus réguliers avec des meufs aussi. Ce côté sortir du sexe pénétratif, me rendre compte que y avait pas besoin de pénétration pour prendre du plaisir, découvrir ce qu'étaient les vrais bons cunis, parce que, désolé messieurs, mais pour l'instant je cherche encore à avoir un partenaire cisgenre homme qui me fasse vraiment un très très bon cunis. C'est quelque chose que j'ai jamais connu à part avec des meufs. Donc ouais, je pense que la bisexualité, moi, m'a aidée à déconstruire beaucoup de choses au niveau des rapports et m'a peut-être poussée à être plus exigeante. En tout cas, je sais que là, au stade où j'en suis de ma vie aujourd'hui, du haut de mes 34 ans, je pense que je n'ai jamais été aussi exigeante de ma vie en matière de sexe. Heureusement, ma partenaire est formidable. donc c'est génial. Mais la personne, si jamais un jour je dois coucher avec quelqu'un d'autre, il faudra que cette personne sache que la barre est placée haute.
Mais c'est bien, faut mettre la pression un peu.
Mais ouais, c'est important de mettre...
Alors, en l'occurrence, si c'est un homme, parce que du coup, oui. Si c'est une femme, elle sera naturellement douée.
Voilà, mais au-delà de mettre la pression, juste en fait que les gens prennent conscience que, qu'il n'y a pas que la pénétration dans la vie, que contrairement à ce que disait le magazine Elle, la pipe n'est pas le ciment du couple, que en fait c'est le cuni, le ciment du couple. Hein, tu vois, il y a un dicton qui dit « femme heureuse, mariage heureux », bouffez-nous la chatte, et je pense que... qu'on sera globalement beaucoup plus heureuse.
Mais on le dit régulièrement dans ce podcast, il n'y a pas assez de cunis dans la vie.
On est vraiment un podcast pro-cuni ici. Ça va décevoir tous nos auditeurs masculins qui n'aiment pas bouffer des chattes.
Ils vont essayer de déconstruire pourquoi ils n'aiment pas bouffer des chattes.
Exactement.
Et puis, du coup, peut-être se rendre compte que ça vient de fausses croyances de leur part. Peut-être. Toi, tu as reçu quoi comme type de témoignage?
Écoute, moi, j'ai eu des témoignages qui étaient très, très différents de tout ça. J'ai pas un seul témoignage qui me parle d'épilation, mais j'ai beaucoup de témoignages qui me parlent d'amour et d'estime de soi. J'ai notamment des messages qui me disent « Je n'accepterai plus de servir de bouche-trou et de ne voir mes partenaires que quand eux le veulent et pas quand moi je le veux. » Des gens qui me disent « Je ne veux plus tout sacrifier pour le couple et placer le couple au-dessus de tout le reste. » Ce que je peux comprendre. J'ai eu des témoignages qui me disent qu'ils ne voulaient plus croire en le fait que les hommes ont des besoins sexuels qui sont différents de ceux des femmes. Et effectivement, ça, c'est un mythe qu'on a du mal à déconstruire, mais qui est un mythe, tout simplement. J'ai des petites choses un petit peu romantiques, comme j'essaye de ne plus accepter de répondre aux messages de mon amoureux à la minute. Effectivement, moi, je suis team, je réponds aux messages tout de suite, sinon j'oublie qu'ils existent, mais je peux comprendre que on n'est pas toujours disponible, en fait. Parfois, il faut attendre, il faut accepter que l'autre ne soit pas à notre disposition immédiate. Je pensais qu'aimer l'autre, c'était faire des choses par amour, même si on n'en avait pas envie. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à déconstruire dans le couple. C'est pas parce que vous aimez votre partenaire que vous devez vous imposer des choses que vous n'avez pas envie de faire. Contrairement à ce que disent toutes les personnes qui nous matraquent le devoir conjugal.
Et puis même un rythme qui n'est pas le nôtre, parce que du coup, il y a toujours ce débat sur est-ce que je dois me coucher exactement en même temps que mon partenaire, me lever à la même heure.
Avoir les mêmes activités, regarder les mêmes films, les mêmes séries, il y a plein de choses en fait. C'est vrai que la personne qui me disait « je veux arrêter de mettre le couple au-dessus de tout », moi il y a une idée qui me plaît bien là-dedans, c'est le fait de rappeler qu'un couple c'est aussi deux entités. Il y a le couple et il y a les personnes qui forment le couple et qu'on n'est pas obligé de toujours tout faire avec l'autre et de partager les mêmes avis que l'autre. Ça va probablement faire rire tous mes potes qui écoutent ce podcast parce qu'avec ma meuf, on a vraiment la réputation d'être codépendante et de faire énormément, voire trop de choses ensemble. Mais que les gens se rassurent, on fait aussi des choses chacune de notre côté. La preuve, elle n'est pas là pendant qu'on enregistre ce podcast. Comme quoi, je peux vivre séparée d'elle de temps en temps. Non, mais voilà. J'ai eu un témoignage d'un mec qui me dit « J'ai décidé de déconstruire le fait d'être le seul à jouir. » Bah, bravo, c'est bien. c'est sans vouloir te vexer, ouais, c'est important de se rappeler que bah on n'est pas tout seul dans une relation et que c'est important de faire jouir ses partenaires sans leur mettre la pression et leur dire alors t'as joui, parce que je crois qu'il y a rien de pire en termes de tue l'amour que un alors t'as joui
et qui pousse aussi à culpabiliser puis à simuler les prochaines fois.
Voilà.
Bah écoute, on espère que cette série de témoignages et cet épisode vont aider les gens à déculpabiliser d'avoir accepté des choses qu'il ou elle n'accepterait plus aujourd'hui.
Et c'est aussi important de se rappeler, comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans cet épisode, que la déconstruction, ça se fait petit à petit, c'est une constante évolution. Si ça se trouve, dans 10 ans, on réalisera qu'il y a des choses qu'on accepte aujourd'hui qu'en fait n'étaient pas correctes non plus. C'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est pour ça que personne ne pourra jamais être totalement déconstruit non plus.
On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, on vous rappelle que Laetitia et Lucille présentent Le Sexe, c'est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes et nous écrire pour nous poser des questions sur nos réseaux sociaux.
À bientôt!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.